n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Chaque 1er mai, c'est la fête du travail. Comment notre rapport à ce dernier a évolué? Nos invités sont enseignants-chercheurs à Lyon 3 et directeurs adjoints de la responsabilité sociétale des entreprises d'une mutuelle. Nous irons ensuite au lycée agricole Les Sardières où nous avons suivi des lycéens. Ils fabriquent des savons avec de l'huile végétale produite à Jaya et des emballages compostables. Et tout de suite, c'est votre actu en bref.
Bourque en bref.
Une journée de mobilisation exceptionnelle contre la réforme des retraites. Un appel lancé pour le 1er mai, journée de la fête du travail, par l'ensemble des organisations syndicales. Une union jugée historique et inédite par la CGT. Les syndicats veulent maintenir la pression sur le gouvernement et le Conseil constitutionnel. Ce dernier doit examiner le 3 mai la deuxième version d'un RIP, le référendum d'initiative partagée. Une première version a déjà été présentée à l'institution, mais le Conseil constitutionnel ne l'a pas jugée recevable. Plus de marché, place de la Comédie et rue Pasteur le mercredi à Bourque. Dès ce mercredi 3 mai, les commerçants de vêtements et autres rejoignent le champ de foire à proximité du marché couvert. La ville veut les réunir tous au même endroit pour que les acheteurs circulent mieux. On reste à Bourque pour s'intéresser aux utopies. C'est le thème de son printemps culturel, ça se passe du 6 au 8 mai. L'exposition « Faire avec » arrive à H2M, l'espace d'art contemporain de la ville, rue Ténière, et elle y restera jusqu'au 30 juillet. Plus d'infos sur www.bourg-en-bresse.fr.
L'invité de Radio B.
Ce 1er mai, comme chaque année, c'est la fête du travail. Alors pour l'occasion, nous vous proposons d'écouter un enseignant-chercheur. Elle travaille sur le lien entre bien-être au travail et performance. Mais avant de la retrouver, on écoute un témoignage au micro de Romain en stage à la radio.
Qu'est-ce qui vous plaît ou vous déplaît dans votre travail?
Je pense que le plus avantageux quand même, ça reste le salaire. Parce que je suis donc intérimaire chez Renault Truck. Et l'intérim, c'est généralement mieux payé que les embauches ou les CDI. Parce qu'on a généralement plein de primes et d'avantages de fin de mission, etc. Donc c'est un côté un peu plaisant. Après, moi, je suis en année sabbatique. Donc c'est plus pour de ce point de vue-là. Après, ce qui me déplaît, l'ambiance, parfois, elle peut être un peu tendue, il peut y avoir des tensions et il faut arriver à se mélanger avec les autres et prendre sur soi. Mais après, bon, ça c'est qu'un côté un petit peu social et on n'est pas là pour ça, on est là pour le travail.
Est-ce que le rapport de temps entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle vous convient?
Moi, je peux pas me plaindre parce que je travaille, j'ai des horaires assez... assez avantageux où ma fin de journée je peux la garder pour moi, j'ai pas des horaires assez grands et qui finissent tard, donc c'est assez plaisant.
Qu'est-ce que le Covid a changé dans votre manière de travailler?
Bah moi du coup ça a pas trop changé quelque chose parce que bah je travaillais pas à ce moment-là, j'étais en études, donc à ce moment-là ça a seulement changé que j'allais plus à l'école, je travaillais à la maison.
On écoute maintenant Nathalie Bernard, enseignante-chercheure à l'université Lyon 3 à Lyon. Elle enseigne les ressources humaines et fait des recherches pour savoir comment concilier bien-être au travail et performance.
Je suis Nathalie Bernard, je suis enseignante-chercheure à l'IAE de Lyon, donc à l'université Jean Moulin Lyon 3. J'enseigne plus particulièrement les ressources humaines, voilà.
Et donc vous êtes aussi spécialisée dans tout ce qui est autour du bien-être au travail?
Alors oui, un enseignant-chercheur, il a une dimension effectivement d'enseignement, donc pédagogique, où j'interviens dans les masters de ressources humaines de l'IAE, et puis également une activité de recherche. Et sur cette partie-là, les thématiques que j'explore sont autour du bien-être au travail et de la performance. Comment finalement on peut concilier bien-être au travail et performance? Est-ce qu'on est condamné à choisir la performance au détriment du bien-être, ou est-ce qu'il y a une voie possible qui permette de concilier ces deux éléments?
Donc concrètement, vous allez aller voir des salariés, dans différentes entreprises. Est-ce que vous avez un exemple?
Oui. Alors là, il y a justement un papier qui vient de sortir sur le paradoxe du bien-être au travail et la performance, où j'ai cherché à comprendre quelles sont les représentations des acteurs. Donc j'ai interviewé des directeurs, des managers de proximité et également des collaborateurs, et j'ai essayé de voir si finalement la possibilité de concilier bien-être et performance était une vision qui était commune à l'ensemble des populations dans l'organisation, ou au contraire, est-ce qu'un dirigeant, il avait une vision différente d'un collaborateur. Alors, ce qui est apparu effectivement dans les résultats, c'est que globalement, de manière générale, on va dire qu'il n'y a pas trop d'écart de représentation, si ce n'est que effectivement, un dirigeant, il va avoir plutôt une vision stratégique du sujet pour aborder cette thématique-là, alors que effectivement, un collaborateur va plutôt s'apesantir sur les dimensions de conditions de travail qui vont permettre effectivement de concilier bien-être au travail et performance.
On a beaucoup parlé du Covid qui a pu amorcer un virage dans le rapport qu'on a au travail. Qu'est-ce qu'on peut dire du côté donc de ceux qui travaillent, plus les salariés, les collaborateurs? Est-ce que leur rapport au travail a changé?
Clairement. Ce qu'on peut observer, c'est que déjà les sphères personnelles et professionnelles sont plus aussi imperméables qu'avant. On ramène à la maison des soucis de travail, on amène au travail des soucis personnels. Ces sphères-là sont encore plus imbriquées aujourd'hui avec le fait qu'on a des outils de travail qui nous permettent de faire une continuité entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle. Par exemple, on peut rester connecté, avoir accès à nos mails, avoir accès à des visioconférences, voilà, sur le lieu personnel alors qu'on est en situation professionnelle. Donc déjà, notre rapport au travail, ne serait-ce que géographiquement, mais également sur la dimension temps, elle est plus du tout abordée de la même manière, avec des personnes qui peuvent effectivement rester plus longtemps connectés, avec des personnes qui peuvent effectivement amener du travail à la maison ou inversement. Voilà.
Il y a aussi un rapport différent de ce qu'on peut voir d'une nouvelle génération qui fait aussi plus attention à son équilibre entre vie privée et vie professionnelle. On parle notamment des jeunes médecins qui ne veulent plus travailler non-stop et qui veulent vraiment aussi avoir une vie de famille à côté. Est-ce qu'il y a un changement aussi de ce point de vue-là de rapport au travail?
Absolument. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle concerne uniquement les nouvelles générations? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'effectivement, alors ça, c'est poussé clairement par les jeunes générations qui le font savoir de manière plus marquée, on va dire, vis-à-vis de la hiérarchie. Mais tout un chacun est plus sensible aujourd'hui à cet équilibre vie personnelle-vie professionnelle qui est une des composantes de la qualité de vie au travail, au même titre qu'une information transparente, que de bonnes conditions de travail, qu'une ambiance de travail, des bonnes relations avec ses collaborateurs, et aussi la possibilité d'avoir des perspectives d'évolution personnelle. Et l'équilibre de vie personnelle, vie professionnelle est une des composantes de cette qualité de vie au travail. Donc en effet, il y a des attentes des collaborateurs qui sont de plus en plus significatives sur ce champ-là et poussées effectivement par les jeunes générations, mais qui concernent à mon sens l'ensemble des collaborateurs.
Et comment on peut expliquer ce changement? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre avant, après, ou peut-être il y avait plus aussi cette question de personnes qui restaient dans la même entreprise pendant des années, et là peut-être une nouvelle génération qui préfère aller voir différentes choses?
Alors en effet, les anciennes générations faisaient toute une carrière de 40 ans dans la même entreprise. Aujourd'hui, les jeunes générations, n'auront plus cette possibilité-là, mais ne la cherchent pas non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, elles préfèrent en général avoir plusieurs expériences différentes de travail, ce qui leur permet, selon elle, de se nourrir peut-être plus, effectivement, en faisant un petit peu du zapping d'une entreprise à une autre, où elles vont chercher ce dont elles ont besoin pour construire leur avenir professionnel. Alors qu'effectivement, les anciennes générations étaient plutôt dans une continuité au sein même d'une organisation, avec une idée de progression de carrière, d'évolution au sein de la ligne hiérarchique, ce qui n'est pas forcément aujourd'hui aujourd'hui les attentes actuelles des nouvelles générations.
Et pour terminer, comment on peut expliquer ce changement ?
Déjà, quand on change de génération, on a effectivement des nouvelles attentes qui sont en phase avec aussi la société. Je crois qu'effectivement, on a eu des acquis sociaux aussi au fil des générations, avec l'arrivée des 35 heures, avec aujourd'hui on est en train de parler de la semaine de 4 jours de travail. On a effectivement aussi vu peut-être pour les jeunes générations des parents qui ont connu un peu des déboires professionnels sur leur fin de carrière. Il y a qu'à voir effectivement les entreprises qui considèrent les employés après 45 ans comme seniors dans l'entreprise et qui ont parfois vu donc du coup leurs parents sortir de l'entreprise parfois avec peu de tact. Donc en effet, je pense que ces jeunes générations sont plus sensibles à justement le rapport qu'elles peuvent avoir avec l'organisation.
Nathalie Bernard, enseignante-chercheure à l'Université Lyon 3 à Lyon. Elle enseigne les ressources humaines et fait des recherches pour savoir comment concilier bien-être au travail et performance. On retrouve maintenant Emmanuel François, il est directeur adjoint RSE, responsabilité sociétale des entreprises d'une mutuelle.
Emmanuel François, je suis directeur RSE adjoint de Aesio Mutuelle.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer la RSE, c'est quoi ?
Eh bien, la RSE, en fait, ça consiste pour les entreprises à intégrer des préoccupations environnementales et sociales à la fois dans leurs affaires classiques et aussi dans leurs relations à leurs parties prenantes, qui sont l'ensemble des personnes ou groupes de personnes qui ont des interactions avec l'entreprise.
Est-ce que vous constatez que le rapport au travail a changé, notamment avec la crise Covid qu'on a vécue ?
Oui, bien évidemment, le rapport du travail a beaucoup changé. Je pense qu'on a eu un grand coup de balancier vers un télétravail forcé qui n'était bien évidemment pas souhaitable, mais c'était une question de santé publique, donc d'autres considérations avaient pris le dessus. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on retrouve une sorte d'équilibre pour que à la fois les entreprises puissent continuer à être un corps social qui est vivant, mais aussi qu'on puisse bénéficier et que chacun puisse bénéficier du télétravail qui a aussi évidemment ses bons côtés. On constate aussi qu'il y a beaucoup de demandes pour que le travail soit de plus en plus à la carte. Et ça va être une sorte de compromis, un nouveau type de contrat finalement que l'entreprise devra passer avec ses collaborateurs.
Est-ce qu'à Aesio, il y a des constats de ça ? Est-ce que des gens veulent passer à 80% ? Est-ce que vous le voyez au quotidien ?
Chez Aesio, en fait, on a un accord de télétravail qui permet d'avoir un télétravail, j'allais dire, assez classique, vu depuis aujourd'hui, mais aussi on a du télétravail augmenté qui permet à des gens dans certaines conditions et qui ont certaines conditions d'une certaine réalité en fait à laquelle ils doivent faire face, de pouvoir être plus à la maison que d'autres, travailler chez eux, depuis chez eux, parce qu'ils sont éloignés d'un site, parce qu'ils ont une réalité différente.
Et donc l'avenir de l'entreprise en général, pour vous, ce serait quoi ? C'est d'essayer de recréer du lien ou que chacun fasse un peu à la carte, qu'il y en ait qui ne viennent pas, d'autres qui viennent ?
Encore une fois, je pense qu'il faut qu'on s'adapte à de nouvelles réalités, également s'adapter au fait que les gens expriment de plus en plus des besoins particuliers auxquels l'entreprise doit s'adapter, si elle le souhaite ou pas. Ça, c'est un choix qui est très propre à l'entreprise. Maintenant, je pense qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont menées aujourd'hui sur quelles sont les conditions de travail idéales, c'est quoi finalement un contrat de travail, que ce n'est pas un contrat d'engagement mutuel, d'engagement réciproque. Et il y a des réflexions extrêmement intéressantes qui vont être portées. Je pense que le monde du travail va beaucoup évoluer. Il va aussi devoir, bien évidemment, être en accompagnement de la transition écologique, en accompagnement des transitions sociales. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à inventer encore sur le marché du travail pour que tout ça puisse se faire de manière la plus fluide possible.
Emmanuel François, directeur adjoint RSE, responsabilité sociétale des entreprises d'une mutuelle.
Ça fait très plaisir de voir autant de cyclistes réunis à Bourg cet après-midi. Là, on est sur des arbres qui ont un peu plus de 100 ans, 100, 120 ans.
En reportage avec Radio B.
Des savons zéro déchet, c'est ce que fabriquent depuis quelques semaines des lycéens du lycée agricole Les Sardières à Bourg-en-Bresse. Ces savons sont produits avec de l'huile végétale qui vient de Jaya, donc à quelques kilomètres du lycée. Et les emballages sont compostables. Nous les avons suivis avec leur encadrante pendant la conception de ces savons.
On va s'organiser, donc en fait on va faire... Qui veut faire olive? Oui. Elliot et Mathéo et Granit, vous faites olive, savon olive. Et les filles, vous faites amande, savon amande. Ok, donc savon amande dans le petit moule, savon olive dans le grand moule. Là, l'idée, c'est on récupère de l'huile de chez Libellule à Jaya. Donc c'est un fournisseur qui est juste à côté, donc c'était notre objectif. Hein. Donc 100% de nos huiles ne viennent pas de cette entreprise, mais en tout cas tout ce qui est amandes, noix et olives viennent de chez eux. Et donc du coup l'idée c'est de travailler leurs huiles. Et là on a fait les peser, fondu les huiles, mais alors on monte pas très très haut en température, on monte pas au-dessus de 40 degrés, on reste vers les 40 degrés pour faire fondre les huiles, pour garder tous les bienfaits des huiles. Et après, on mélange la soude et l'huile, donc c'est ce qu'on va faire là. Donc, il y a la réaction de saponification qui va se faire, donc afin de constituer le savon et de la glycérine. Donc, la glycérine, ça va protéger la peau. Et les huiles, donc en fonction du savon, ça va être soit hydratant, donc comme celui d'amande, soit cicatrisant pour la noisette, soit olive. Alors, ça va être notre basique, l'olive, mais il va être très hydratant aussi. Et enfin, la noix qui est exfoliant parce qu'on met des morceaux de noix à l'intérieur. Ok, donc les pesées sont faites pour les huiles et pour tout d'ailleurs. Les huiles sont fondues, elles sont à température. La soude et l'eau a été mélangée. Donc là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire du coup? Ouais, on mélange. On mélange quoi avec quoi du coup?
Les huiles et la soude.
Ok, donc c'est parti, je vous laisse faire. Vous vous équipez?
Pourquoi faut s'équiper déjà?
Alors là, on va utiliser de la soude. Donc, c'est très corrosif pour le coup. Donc, du coup, tout le monde doit porter des gants et des lunettes. Donc, on commence par Olive. Les gars, vous équipez surtout. Et puis, qui c'est qui mixe? C'est Elliot?
Oui, évidemment, oui.
Allez. Donc, la soude et l'huile. Donc là, l'idée, c'est d'obtenir une trace, c'est-à-dire quand toutes les huiles sont bien mélangées à la soude, on va avoir une texture beaucoup plus épaisse, un peu comme une crème pâtissière, quoi. Donc c'est là où il faut avoir l'œil, avoir une bonne trace, pas trop épaisse, pas trop fine, et pour qu'on puisse mouler. Par contre, si on la fait trop épaisse, on ne peut pas mouler, en fait, voilà, ça ne se moule pas. Donc là, on est encore, tu vois, on est entre deux, là.
Ouais.
Donc, vas-y, remixe un coup. C'est bien. Alors là, on va mettre le parfum.
Oui.
Il est là.
Je le mets?
Oui, s'il te plaît. Tu vas remixer avec. Donc on voit que ça s'épaissit. Parfait. Tu portes le... Et c'est parti.
Tiens, Mathéo.
Et Mathéo, tu
racles. Ça va aller? Je pense,
oui. Donc là, ça fait à peu près 7 kg de savon qu'on va couper en pains de savon. Donc ça va nous faire 56 savons de 100 grammes. Voilà, donc au tout début, dans notre projet, on avait du mal à obtenir bien 100 grammes. Donc ça a été aussi notre travail. On ne peut pas vendre un savon qui pèse moins de 100 grammes. Donc voilà. Donc là, tous nos savons sont bien 100 grammes. On a travaillé aussi avec un toxicologue. Donc l'idée, c'est on peut pas mettre un cosmétique comme ça, comme on veut, sur le marché. Il faut qu'un toxicologue nous valide toutes nos recettes. Donc nos recettes, c'est ce qui a été plus long, en fait, ont été validées. Donc voilà, ça demande du temps à faire valider tout ça. Donc voilà, après, qu'est-ce qui se passe, du coup, une fois qu'on a moulé?
On attend 24 heures.
Pour faire quoi?
Pour que ça se solidifie un peu plus.
Donc la saponification, l'huile et la soude réagissent. Et après, qu'est-ce qu'on fait au bout de 24 heures?
Après, on vérifie le pH et on pèse.
Pas tout de suite, on vérifie pas tout de suite le pH. Là, le pH n'est pas bon. On ne pourrait pas s'en servir 24 heures après.
Oui. La cure pendant 4 semaines.
Voilà, donc du coup, on va démouler, découper en pain de 100 grammes et après, la cure Pendant 4 semaines. Donc c'est quoi la cure pendant 4 semaines?
C'est le temps que le pH s'enlève, enfin qu'il baisse.
Il baisse de pH. Donc on avait vu qu'il avait baissé de pH et puis il perd combien de pourcents?
10%
d'humidité. Voilà, donc c'est deux conditions. Une fois que ça fait 4 semaines, normalement le pH est bon, l'humidité est bonne, et on peut les mettre en vente. On les conditionne et on les met en vente. On découpe les savons qui ont été fabriqués donc du coup 24 heures avant. Donc là, il y a noix et noisettes à découper. Donc pour ça, on utilise une guitare. Donc ce sont des fils de guitare.
Donc ça, c'est le noisette. Il a des propriétés cicatrisantes.
Voilà. Donc là, on va les mettre dans les caisses.
Oui.
Et on va les apporter en zone de cure.
Donc là, comment vous les disposez?
On les espace un peu pour qu'ils puissent perdre de l'humidité et que ça puisse se faire correctement. Parce que s'ils sont trop collés, la cure, elle se fait mal.
C'est quoi ton prénom?
Alors moi, je m'appelle Mathéo. On est en formation professionnelle, donc BIDT, donc c'est de la bio-industrie de transformation. On est plutôt centré sur l'apprentissage de l'alimentaire, la cosmétique et la pharmaceutique.
Et toi, tu veux faire quoi?
Ça a un peu rien à voir avec la formation, puisque je veux devenir auxiliaire spécialisé vétérinaire ou vétérinaire.
Et donc, en attendant, t'as choisi cette formation. Pourquoi t'as choisi cette formation?
J'ai choisi cette formation parce que c'était la formation où je me reconnaissais le plus. Je sens que je peux beaucoup m'épanouir parce que j'aime beaucoup me débrouiller en cuisine ou alors même là par exemple cette année on a eu le projet donc de faire les savons et donc on a pu vraiment être autonome à faire des productions tout seul donc du coup c'est ça qui me plaît dans cette formation. Manipuler ici avec les autres camarades de classe c'est pas mal parce que avec le temps on s'est un peu tous rapprochés les uns des autres donc du coup on forme un peu une petite équipe maintenant.
Je m'appelle Mathieu Mesplé.
Pourquoi tu as choisi cette formation?
À la base, je suis venue parce que j'adorais le côté cosmétique. Et entre la seconde et la première, j'ai adoré le côté agroalimentaire. Mais maintenant, j'hésite entre le cosmétique et l'agroalimentaire. Je suis mitigée.
Et donc, qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'atelier savon?
Tout, j'adore. Vraiment.
Je m'appelle Elliot. Dans l'atelier savon, ce que j'aime le plus, c'est, je pense, les ventres. C'est intéressant d'avoir un contact avec le client et de pouvoir en fait vendre ce qu'on a fait.
Donc des fois vous passez à la vente?
Oui, et pour les portes ouvertes on les vend et c'est nous qui les vendons aux parents qui viennent visiter et aux élèves le lycée.
Donc pourquoi t'aimes vendre?
C'est sympa d'avoir un contact avec le client, de se dire c'est nous qui avons fait ça, on présente la chose et puis ils achètent et puis c'est sympathique.
Et après quand on a fait ça, c'est le nettoyage. Donc de tous les ustensiles, de la salle, du sol, etc. Donc pour avoir une hygiène parfaite, quoi, pour refaire une prod demain ou un autre jour.
Et vous faites tous les combien ces ateliers?
Eh bien en fait, ça va être en fonction de la demande. Là, jusqu'à maintenant, on produisait pratiquement une fois par semaine avec les élèves pour pouvoir faire nos 1000 savons. Là, on a réduit un petit peu pour voir un petit peu comment ça va partir. On ne sait pas trop où on va encore. Mais l'idée, c'est après de travailler sur des ventes pour la fête des mères. On va préparer aussi Noël prochain, etc. Et surtout, ce qu'on voudrait, c'est avoir plein d'autres produits. Donc, à base toujours d'huile, pour l'instant. Donc, des huiles lavantes, des huiles démaquillantes.
Retrouvez les savons noisettes, noix et amandes à la boutique Sardélis, juste à gauche de l'entrée principale des Sardières. Un savon coûte 5,50 €. Et retrouvez plus d'informations sur cette boutique et leurs produits sur le site du lycée www.sardières.fr. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain à 18h. En attendant, belle semaine sur Radio B.
On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.